54 ans, résident dans le secteur de Charlebourg, a été arrêté. Il va faire face à 4 chefs d'accusation, agression sexuelle, voyeurisme, obtention de services sexuels et entrave. Il est présentement détenu. Il devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec. L'enquête du SPVQ avait débuté en 2023 à la suite d'une plainte d'une victime. Et là, la police a des raisons de croire que le suspect aurait pu faire d'autres victimes qu'ils n'ont jamais dénoncées. Présentement, on a un total de 3 victimes, des femmes majeures et mineures, qui auraient dénoncé la situation. Alors, si vous avez tout renseignement concernant cet homme, Steve Pelletier, 54 ans, résident dans le secteur de Charlebourg, eh bien, communiquez. Vous pouvez composer le 911 pour une intervention immédiate. Sinon, vous pouvez transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle en composant le 418-641-AGIR, donc 418-641-2447. Et pour les gens de l'extérieur de la ville de Québec, ben c'est le 1-888-641-AGIR. Alors, si vous avez des informations concernant cet homme, n'hésitez pas à parler au service policier. Tout est confidentiel.
Aujourd'hui, c'est aussi une grande journée pour Julie Snyder, qui dit que c'est pas sa meilleure parce qu'elle témoigne aujourd'hui devant la juge de la Cour supérieure, Chantal Tremblay. Pourquoi? Pour le dossier de Gilbert Rozon. Vous le savez, beaucoup de femmes qui ont allégué avoir vécu des agressions sexuelle de la part de l'ex-magna de l'humour. Et ça, c'est tout acabit, là. Je veux dire, peu importe les secteurs dans lesquels Gilbert Rozon aurait côtoyé les femmes qui sont plaignantes dans le dossier. Semble-t-il, selon ce qu'on entend, c'est que ça a été sur plusieurs années, dans plusieurs côtoiements, événements, que ce soit en solo, que ce soit en public, peu importe. Il y a une poursuite de 14 millions de dollars qui a été intentée contre Gilbert Rozon par 9 femmes. Pour elle, par contre, Julie Snyder, elle ne demande pas d'argent, donc elle réclame aucun montant dans le cadre du litige. Son témoignage, pour elle, ce n'est que pour démontrer des faits similaires entre son histoire et celle des autres présumées victimes. Question de renforcer un peu le témoignage. Il y a aussi probablement des choses à dire dans le procès des viols de Mazan. Rapidement, là, il y a eu condamnation, Jeff.
Condamnation, 20 ans de prison, c'était la peine maximale en France pour ce type de crime. Pour l'ex-mari de Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, qui, rappelons-le, sur une période là, de près de 10 ans, a fait tout simplement violer sa femme par des hommes sélectionnés au hasard sur Internet, avec qui il prenait contact sur Internet. Les 51 co-accusés, justement, ces hommes qui sont venus violer Mme Pellicot, ont tous été reconnus coupables également. Il y en a un, par contre, que l'accusation de viol a tombé. Ça a été une accusation d'agression sexuelle aggravée qui a été donnée. Donc, les hommes ont tous entre 3 à 15 ans de pénitencier. C'est moins que ce que les procureurs voulaient. Les enfants également de Mme Pellicot sont fâchés de cette situation. Mais du côté de Gisèle Pellicot, on accepte avec classe le verdict et les peines qui s'ensuivent.
Je fais le pas sur tes nouvelles, Jeff, pour dire qu'un élu, toujours dans un dossier de présumée agression sexuelle, qui va devoir verser 34 000 $ à un collègue. Ouais. Elle avait traité d'agresseur son collègue. C'est la conseillère municipale de Stoneham qui s'appelle Gaétane G. Saint-Laurent. Elle va devoir verser 34 000 $ en dédommagement à l'ex-conseiller municipal Jean-Philippe Ruel dans le cadre d'une poursuite en diffamation. Donc, le tribunal, lui, a conclu que cette femme-là a tenu des propos diffamatoires à l'endroit du conseiller et ça condamne alors cette femme-là à parler publiquement, en fait, de ce qu'on dit, et qu'on a prouvé en cours, fausseté et exagération. Ça s'est passé en 2021. C'est fou, là, d'un dossier à l'autre, que ce soit au Canada, en Europe, dans une municipalité qui est proche de la nôtre, il y a des dossiers du genre, puis celui-là en est un qui ne s'est pas pas avéré.
Et vous rappelez le remaniement ministériel qui va avoir lieu demain à Ottawa, donc Justin Trudeau, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Donc, demain, on va annoncer le nouveau cabinet des ministres. Bien hâte de voir qui va encore se coller à Justin Trudeau. On sait que son grand chum, Dominique Leblanc, sera le ministre des Finances qui va prendre la sécurité publique. Ça reste à suivre.
Et oui, c'est la grosse nouvelle de l'après-midi, mon ami. On s'en va rejoindre Patrick Mathieu, cofondateur du ACFES et expert en sécurité informatique. C'est un gars que vous entendez souvent sur nos ondes. Salut, Patrick.
Salut.
On ne pouvait pas finir l'année sans te parler, bien sûr, parce qu'on a l'impression que même si ce n'est pas en gros, en gras, illuminé, ça fait partie de chacune des facettes de notre vie, cette sécurité informatique-là, qu'on parle de fraude, qu'on parle d'administration gouvernementale, qu'on parle de conflits dans le monde, c'est partie intégrante de notre quotidien. Est-ce qu'on a la vérité quand on parle de la sécurité informatique comme étant l'enjeu principal dans notre vie, vu que ça touche un peu à tout?
Bien, c'est un des enjeux principaux, c'est sûr, pour toute entreprise, toute personne, mais la compréhension, je dirais, qui est comme inverse. On pense que c'est par défaut parce que toute la société fonctionne par défaut avec des trucs sécuritaires. Mais l'informatique et Internet, c'est pas ça la réalité. L'exemple que je donne tout le temps, c'est quand tu vas acheter une voiture, tu négocies pas vraiment pour avoir des freins, des coussins gonflables, ils sont déjà là. Ben, Internet, ils sont pas là, mais on prend pour acquis qu'ils le sont. Ouais.
On va justement faire un bilan avec toi. On commence cette année-là qui a été particulièrement difficile pour la SAAQ. Là, si vous pensez que c'est juste le fiasco d'intégration numérique, là, de genre on revoit la plateforme, c'est pas juste ça, mais ça continue d'être un désastre quand même, toute implantation au niveau numérique, technologique pour la SAAQ.
Et quand ça a commencé avec, justement, là, ils ont pris 2-3 semaines hors ligne pour faire une migration vers un nouveau service, là, ça se fait aucunement en entreprise. Là, il n'y a pas personne qui dit on va mettre la business hors ligne pendant un mois pour faire un changement. C'est les deux en même temps pour ça. Fait que ça a très, très mal parti. Ça montrait vraiment que l'équipe, ou plutôt les gestionnaires, de la SAQ avait aucune idée de qu'est-ce qu'ils faisaient à ce niveau-là. Mais tu sais, même dans les derniers mois, ça continue de planter, les systèmes sont hors ligne, il y a des problèmes. Quand on parle aux développeurs qui étaient là, la majorité ont quitté le bateau qui coule. Ils l'ont tous dit que les problèmes ont été relevés à la SAQ, au leadership, depuis plus d'un an ou deux, et ils ont simplement ignoré le tout. Ce qui est dommage avec la SAC, c'est qu'il y a eu un changement ministériel. T'sais, ils ont pris je me souviens plus c'est le PDG, CEO, comment qu'ils l'appellent, là. Ils l'ont mis dans un autre ministère, mais c'est pas lui le responsable de ça. Je veux dire, oui, la faute peut aller en haut, là, mais les gestionnaires, directeurs, VP, tout le monde qui ont créé ce problème-là sont encore en place aujourd'hui. Il n'y a pas une tape sur les mains sur ça. Puis on parle d'un logiciel qui est rendu dans des coûts proches du milliard. Pour quelque chose qu'en entreprise privée, là, on parle de quelques millions à peine. Ça n'a aucun sens. Là. Je ne sais pas pourquoi ils sont là encore.
Ouais. Patrick, toi, tu es un expert là-dedans. Qu'est-ce que tu penses? On a beaucoup pointé du doigt également le ministre de la Transformation numérique et de la cybersécurité, Éric Kerr. Est-ce qu'il est responsable justement de ce chaos?
Ben non, c'est ça l'affaire. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette tendance-là à aller dire que c'est la faute du ministre.
Parce que c'est un politicien, il s'est autoproclamé comme expert cybersécurité, il avait menti sur son CV. Je pense que c'est une tête de Turc facile dans le dossier.
Je pense que oui, mais officiellement, la responsabilité de créer ce logiciel-là, c'est pas le MCN, c'est vraiment la VP de DTI de l'information, là, des technologies de l'information. De la SAC. Cette personne-là est encore en poste. Il y a même une vidéo sur Internet qui explique le cheminement de comment ils ont créé ce projet-là. C'est une vidéo d'à peu près une heure que je me suis forcé à regarder. C'est une vidéo qui dit exactement quoi ne pas faire en entreprise, là, de A à Z, mais ils sont fiers de ça. C'est très dommage. Le MCN, la partie qui a peut-être eu un impact, c'est l'authentification gouvernementale, cette chose-là. Il aurait peut-être dû la tester un peu plus avant. Mais le désastre, c'est la SAC. Ça faisait, je pense, 4 ans qu'il travaillait sur ça.
Les résultats sont pas là. Les résultats sont pas là. On a encore énormément de difficultés aussi à colmater les brèches de tout ça, à rétablir le système. Il y a encore beaucoup de gens qui décident de porter plainte contre la SAAQ pour justement être capable d'avoir des dédommagements dans des paiements qui avaient été faits, mais finalement qui n'ont pas été comptabilisés, des permis qui ne se voient pas payer, peu importe c'est quoi, là.
Dans notre communauté, on a plein de monde qui ont des motos, ils rangent des voitures, peu importe, puis ils nous ont donné leur expérience. Il y en a qui ont payé jusqu'à 3 fois pour remiser la voiture. Il y en a qui attendent depuis 3 à 6 mois pour avoir les paiements.
Oui, ça, c'est encore des problèmes.
Aucun sens, là.
C'est encore des problèmes. Puis avant, ils prenaient un peu responsabilité, puis ils donnaient des délais, puis ils s'arrangeaient pas. Mais maintenant, on dirait qu'ils ont comme un refus là, d'aider ces gens-là. C'est un peu la même chose. Le Santé Québec qui met en place un responsable de la cybersécurité puis qu'on oublie la gestion de la sécurité physique en santé. Est-ce que ça va être un autre type de fiasco comme on a vu à la SAAQ?
Faut leur donner une chance, évidemment. Ils viennent de commencer, mais ça part mal. On a un podcast sur la cybersécurité. le dernier qui est sorti, le titre, c'est Santé Québec qui n'est pas en santé. Là. Le problème, c'est qu'ils ont mis en place, puis c'est pas un problème sur la personne puis le talent et tout, là, c'est vraiment un choix organisationnel, où ce qu'ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle un CISO, là, un responsable de la cybersécurité. Le problème, c'est qu'en santé, on le sait, puis on en parle tout le temps, là, ils sont encore sur papier, ils sont encore sur les fax, physiquement dans les hôpitaux, je veux dire, t'as accès à des machines, à des médicaments, il y a beaucoup, beaucoup de sécurité physique. Fait que là, ils ont mis en place une structure où ce que le responsable de la sécurité est en dessous du département de l'informatique, ce qui ne fait aucun sens par défaut, mais en plus, ils vont seulement s'occuper de la sécurité informatique. Donc, c'est un grand, grand manque dans le réseau de la santé, puis on commente souvent, souvent sur ça. Il s'agit d'aller dans un CLSC, dans un CIUS ou autre. Vous allez voir le post-it sur l'écran de l'ordinateur avec le mot de passe de la personne pour se connecter dans le réseau de la santé. Je pense que dans les 6 derniers mois, on a fait 3-4 posts sur Internet, puis là, la gang du podcast là-dessus. C'est un manquement énorme, ça n'a aucun sens. Puis, c'est pas qu'il n'y a pas de référence, là. Je veux dire, les références existent partout. On peut copier ce qui se fait ailleurs. C'est triste, finalement, de voir une organisation qui dépense autant en gestionnaire, là. Puis de même pas les mettre aux bonnes places.
Puis Patrick, est-ce que ça venait de pair avec le fameux programme informatique, puis je crois pas qu'il est terminé, là, de regrouper les dossiers patients dans le même dossier, justement, pour que tous les hôpitaux, tous les médecins de famille, par exemple, aient accès rapidement?
Oui, le genre de DSQ, ça a plusieurs noms, là. C'est sûr qu'ils vont y toucher d'une certaine manière. Je sais pas leur rôle sur ce logiciel-là. Tant mieux s'ils gèrent la sécurité de ça. Mais tu sais, le DSQ, puis il y avait un autre nom avant, ça date presque de 20 ans, puis ça fonctionne pas encore parfaitement.
Ben oui, en effet.
C'est problématique, là, ça n'a aucun sens.
C'est pour ça qu'on oublie le nom, ça fait trop longtemps.
Mais des gens qui n'oublient pas leur passage dans certains ministères en tant qu'employés, puis qui disent qu'ils en ont même marre de ces gens-là qui s'improvisent experts, puis décident de remanier un peu le tout, puis qu'on change les noms, puis tout, ils disent ça donne le même résultat à chaque fois.
Non, exact, parce que... Puis pas juste au niveau du ministère, là, même dans les consultants qui sont payés pour aller dans les ministères, tu sais, on parle pas de talent partout, là. C'est pas parce que c'est des consultants qui sont meilleurs, puis c'est pas parce que c'est des fonctionnaires qui ont pas le talent, c'est la structure, la machine qui est mal faite.
C'était-tu Cristalnet?
Personne en haut, en place.
C'était Cristalnet, les gars? Ça se peut-tu?
C'est vieux, ça, hein?
Je vais aller faire une vérification.
Il y a quelqu'un qui semble être au courant, là, qui nous écrit, ça serait Cristalnet. Elle dit « Arrêtez tout, toute discussion, est-ce Cristalnet? » Oh, il y en a un autre qui est rentré aussi par texto. C'est probablement que ça va...
Oui, Cristalnet, Réseau de la santé, services sociaux. Donc oui, en effet, c'était le nom « Dossier clinique informatisé ».
Il y a eu une brèche, Patrick, là, en juillet, qui est importante à rementionner, le 119 000 $ quand même. 119 000 personnes qui ont été impactées par tout ça. On est tellement habitués que ça coûte de l'argent. Peux-tu nous reparler de cette brèche-là en 2024?
Oui, celle-là, c'est un cas intéressant. Je voulais le rementionner parce que c'est quelque chose qu'on pense pas souvent en entreprise et au gouvernement. C'est ce qu'on appelle en anglais le supply chain attack, une attaque sur la... nos fournisseurs. Fait que là, on parle du CSMC, là, de la Montérégie Centre, qui ont utilisé un fournisseur de marketing, comme la majorité des entreprises. Le problème, c'est que la majorité des entreprises de développement, de marketing, publicité, etc., la sécurité, c'est pas mal le dernier élément qu'ils vont mettre en place ou qu'ils pensent à, même s'ils ont des données confidentielles énormes. Et cette organisation-là avait accès à plus de 119 000, là, presque 120 000 informations sur les personnes qui ont utilisé le CIUS. Ça fait qu'on parle du nom, du prénom, de l'adresse postale, etc. Donc, en entreprise, ce qu'il faut comprendre, entreprise et tout le monde, là, mais quand vous prenez un contrat avec une entreprise, il faut des clauses de sécurité, puis il faut aller valider que cette entreprise-là a fait leur due diligence, leur minimum de vérification de sécurité. Fait qu'il y a, il existe des standards, des attestations, puis plein de choses, là, qu'on parle de ISO, PCI, SOC. On peut même demander, avez-vous déjà fait un test d'intrusion valide à la fréquence qu'ils font, si on corrige les choses. On peut au moins vérifier quelque chose. Puis ça semble avoir été un manquement à ce niveau-là. Puis même ça a été vérifié, il faut le dire, là, même si on vérifie que l'entreprise accepte son minimum, ça ne veut pas dire qu'ils sont sécuritaires, mais ça reste quelque chose qu'il faut penser dans nos organisations, que toute autre organisation qui a nos données sont potentiellement eux qui vont se faire pirater. Là. Mmh. Ouais.
Fait que de s'associer avec des gens qui font le même parcours que nous pour protéger les données des clients qui sont dans nos banques, finalement. Là, c'est un travail d'équipe qu'on ne voit pas beaucoup et qui prend un petit peu de retard par rapport à ailleurs dans le monde. Ça se demandait si on a manqué le train. On va avoir à surveiller tout ça, Patrick, Mathieu, en 2025. Assurément, on va te reparler pour certains
ben oui.
cas. On espère pas trop souvent, dans le sens où si on te reparle souvent, c'est parce qu'il y a eu plein de brèches, il y a eu plein de problématiques. Mais en même temps, il y en a plein sous notre nez. Puis justement, ça ne se rend pas assez souvent dans l'actualité, ça se peut-tu?
Ben, il y en a juste un peu. Si on regarde rapidement les métriques de la CAI, la Commission d'accès à l'information, ils ont sorti un rapport en mars, une augmentation de 75 % plus de déclarations d'incidents à la CAI. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est juste eux qui le disent. La majorité ne le disent pas. Et ça, c'est plus de 444 déclarations en 2023 jusqu'en mars 2024.
Ouf.
Fait que ça continue, puis ça va toujours être, ben pas toujours, mais présentement, ça va être ça pour un bon moment.
Ouais, puis pourtant, ça fait tellement partie de notre quotidien. Moi, encore cette semaine, les deux personnes que je connais qui se sont fait frauder, une par un genre de piège sur les réseaux sociaux, une autre, puis c'est des personnes super brillantes, là. Une autre sur sa carte, heureusement, il n'y a pas eu de dommages, elle a été capable de tout régler ça rapidement avec sa banque, mais c'est à tous les jours. Puis on voit ça, mettons, la fraude des oui, allô, des ci, des ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. On te reparle en 2025.
Yes, bonne année tout le monde.
Bonne année.
Salut!
T'as-tu déjà fait frauder ou quelqu'un de proche de toi?
Je me suis fait cloner ma carte de crédit cette semaine.
Cette semaine?
Oui.
Bon, ben je t'ajoute à mon palmarès de personnes qui... Ben, arrête donc, toi.
Oui, il y a une réservation à l'hôtel Rivière-du-Loup qui est passée.
Sur ta carte?
Sur ma carte.
Puis ça, c'est pas, mettons, ta blonde ou ton enfant?
Non, du tout. Fait que...
Ben, voyons donc. Plus, tu sais pas d'où ça vient.
Ben non, fait que j'ai appelé à l'hôtel pour annuler, puis j'ai fait le travail par la suite avec MasterCard. Là.
OK, t'as appelé quand même.
Oui,
t'as appelé au niveau de ta banque ou ta caisse pour être sûr de comprendre ce qui s'est passé? Ou...
Non, j'ai pas poussé plus loin. C'était la seule transaction qu'il y avait. J'ai tout de suite fait annuler ma carte. Fait que moi, pour moi, c'était dossier réglé.
Je dis ça, je dis rien, mais peut-être que j'irai explorer un peu plus, mon beau Jeff. Je tiens à toi et à tes finances. Peut-être en terminant le segment, quelqu'un qui dit logiciel qui est bien implanté depuis des années, qui est dépassé même avec les mises à jour. Le CrystalNet dont on parlait, là, pas le CrystalNet.
Oui, oui.
Le CrystalNet. Net. C'est énormément difficile, ça bug tout le temps. Ça sera encore utilisé dans certains établissements même de santé au Québec. Et on l'a imposé aux travailleurs. On disait que ça va être la meilleure façon de travailler maintenant. Plus en dossier papier, mais finalement, le logiciel, c'est aberrant. Puis ça amène encore plus de complications au niveau de ce travail-là. Quelqu'un qui dit, moi aussi, je me suis fait frauder cette semaine. À l'aube des fêtes, là, c'est plus un vol d'un char de petits sous. Là. On en voit. Là. On voit encore des vols de voitures. On voit encore des vols dans les voitures, des vols dans les maisons, les chalets. Mais c'est vraiment la fraude qui a pris le relais.
Vraiment.
C'est ce qui se passe dans cette modernité dans laquelle nous sommes. Max Larouche en vient.
Oui, ça va être plaisant.
Ça va être vraiment le fun. Mais d'abord et avant tout, on va parler de sa saga du passeport. Mais ça fait un petit bout qu'on travaille avec Max. Les meilleurs, pires moments de la politique cette année en audio. Si vous voulez bien finir là, votre avant-midi, ben là, on est pas mal rendu à 13h20. Là. Mais si vous voulez bien finir votre semi-matinée midi, là, ça va être avec Max Larouche dans quelques instants. Soyez au rendez-vous. Vous êtes avec Jeff Fortin et Pascal CV dans Marceau le midi, en absence de Marceau, qui est parti une petite semaine d'avance pour son congé des fêtes. On va le retrouver dès le 6 janvier. Sugar Ray et Little Saint-Nic à Boulevard 102.1.